Vous êtes sur RTL.
Merci.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
12h30, 14h30, 2 heures d'info, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, le Covid qui continue d'épargner l'école. À peine 0,6% des classes sont actuellement fermées. Dans ce journal également, le pass sanitaire, bientôt obligatoire en entreprise. Ça se passe en Italie. Les 40 ans du TGV et les très mauvais chiffres de la sécurité routière, plus 10% de tués au mois d'août.
Juste après le journal, deux débats. Ces élèves de 6e harcelés à l'école d'abord, et ce hashtag 2010, que peut-on faire? Que doivent faire les parents? On en parlera avec une maman dont la fille s'est suicidée pour avoir été victime de harcèlement à l'école. Et puis à 12h50, débat autour de la chasse et cette question, pourquoi Emmanuel Macron et d'une certaine manière tous les présidents de la République cajolent-ils les chasseurs?
C'est justement la question du jour sur RTL.fr. Le gouvernement a-t-il raison de défendre les chasseurs? Vous dites oui à 37%, non à 55%. La météo, c'est avec vous Claire Delorme aujourd'hui, bonjour.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Du beau temps donc pour cet après-midi, mais attention, ça ne va pas durer.
Exactement, des éclaircies qui vont dominer sur la plupart des régions, à l'exception de la Bretagne, où forcément une nouvelle perturbation va arriver avec des pluies assez actives. Pour les températures, il faudra compter entre 20 et 24 degrés en général, et quelques degrés de plus jusqu'à 29 degrés dans le Languedoc.
Merci Claire, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc cette bonne nouvelle, le retour à l'école n'a pas fait repartir l'épidémie de Covid, en tout cas pas pour l'instant. Deux semaines après la rentrée, le nombre de classes fermées reste très faible. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
On est à 3299.
Oui, c'est dans les proportions que le ministre annonçait en début de semaine. Et les autres chiffres à retenir, 15 écoles et un seul collège totalement fermé. En primaire, la classe ferme dès l'apparition d'un cas Covid. Hein, et dans le secondaire, c'est selon l'avis des autorités de santé. Pour rappel, au pire de la vague précédente, au printemps dernier, on avait plus de 11 000 classes fermées et 229 établissements. Alors il faut rester vigilant, dit Santé publique France, parce que c'est seulement la semaine prochaine qu'on verra le plein effet de la rentrée scolaire. Mais les chiffres sont encourageants. Le taux d'incidence chez les 0-9 ans baisse. Il est passé de 120 à 109 en une semaine. Le nombre de nouveaux cas chez les moins de 18 ans a diminué de 20% cette semaine. Et le taux de vaccination des 12-17 ans progresse bien, selon les autorités de santé, avec un taux désormais de 60,1% de première dose administrée.
Merci beaucoup Marie Guerrier, spécialiste éducation ici à RTL. Autre signe d'une amélioration de la situation, la fin de l'obligation du port du masque en extérieur dans le Var. Elle était encore en vigueur dans 58 communes, notamment celle du littoral. Les Italiens, eux, ne pourront bientôt plus travailler sans passe sanitaire. Il sera obligatoire partout, en entreprise, dans le privé comme dans le public, à partir du 15 octobre. Olivier Bonnel, vous êtes le correspondant d'RTL à Rome. Qu'en disent les Italiens ?
Oui, ce sont les syndicats qui ont fait part de leur inquiétude. Ils ont obtenu qu'aucun licenciement n'ait lieu en cas de non-présentation du pass sanitaire. Mais le gouvernement de Mario Draghi reste ferme. Le salaire sera suspendu dès le premier jour d'absence pour les employés des entreprises de plus de 15 salariés. Pas question non plus de se mettre en télétravail pour ceux qui n'auraient pas le pass sanitaire. Et les tests ne seront pas gratuits comme le demandaient les syndicats, mais leurs tarifs devraient baisser. Entreprises privées, administrations publiques, ouvriers dans les usines ou aides à domicile, c'est tout le secteur d'activité en Italie, soit 23 millions de salariés qui est concerné, tout comme ceux qui effectuent un stage en entreprise ou suivent une formation professionnelle. L'objectif affiché du gouvernement est d'accélérer encore la vaccination avant l'hiver et un possible rebond des contaminations. Ce pass sanitaire rend les lieux de travail plus sûrs, a précisé le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza. Et en cas d'absence non justifiée sur le lieu de travail, les amendes promettent d'être salées de 600 à 1500 euros.
Olivier Bonnel, le correspondant d'RTL en Italie, où on serre donc encore un peu plus la vis.
Dans l'actualité également, un anniversaire.
Le TGV représente une grande réalisation technique, une étape de plus dans la recherche par l'homme de son propre dépassement.
C'était le 21 septembre 1981, François Mitterrand inaugurait le TGV. 40 ans plus tard, Emmanuel Macron était ce matin gare de Lyon, hein, la même où le premier train à grande vitesse a pris le départ. Quelques cheminots, vous les entendez, ont profité pour manifester
à distance. Le chef de l'État doit dévoiler une maquette grandeur nature de la motrice du TGV-M qu'on a longtemps appelé le TGV du futur et que la SNCF doit mettre sur les rails en 2024. Emmanuel Macron, qui comme RTL vous le révélait ce matin, va annoncer la création d'un fonds d'indemnisation pour les harkis et éventuellement pour leurs descendants. La question reste à trancher. L'idée, explique un proche du président, c'est de mettre fin, je cite, au déni mémoriel qui dure depuis 60 ans. Lui n'a pas hésité à représenter Emmanuel Macron en Hitler, puis en maréchal Pétain. L'afficheur varois Michel-Ange Flory est condamné à 10 000 euros d'amende. Il comparaissait ce matin devant le tribunal correctionnel de Toulon, Hugo Hamelin.
Ouais, Michel-Ange Flory, l'afficheur satirique, comme il se définit lui-même, a donc été condamné pour injure publique pour ses deux affiches en relation avec le pass sanitaire et la vaccination. Et ce, malgré la plaidoirie grandiloquente de son avocat qui a convoqué l'esprit Charlie Hebdo et le droit à la caricature pour défendre son client, fustigeant sa majorité présidentielle. On écoute Maître Tourné qui a d'ailleurs décidé immédiatement de faire appel.
Les affiches qui ont été poursuivies à l'initiative du président de la République, s'inscrivent évidemment dans le droit à la caricature, dans un débat d'intérêt général et une opinion, celle de Michel-Ange Flory sur cette situation-là. Comme tout citoyen, il a le droit de s'exprimer. Il s'exprime par des tweets en 3x4, comme il a l'habitude de le dire. Je crois qu'au-delà de sa personne, c'est le droit à la caricature qui a été atteint.
Voilà, Michel-Ange Flory qui n'affiche d'ailleurs aucun regret ce midi. Il a même convoqué ses fans, une trentaine de personnes qui sont venues le soutenir devant le tribunal. Et puis il a sorti hier une nouvelle affiche, le représentant lui et Emmanuel Macron dans un ring de boxe, paré pour le combat face au juge. Malheureusement pour lui, il a donc perdu ce premier round judiciaire.
Hugo Hamelin en direct de Toulon pour RTL. À Perpignan, une jeune femme a été retrouvée inanimée dans une voiture entre la vie et la mort mercredi soir. Les enquêteurs soupçonnent son compagnon de l'y avoir enfermé, Patrick Tégéro.
Oui, car les policiers ne peuvent pas croire ses explications. Il leur a dit que sa compagne ne supportait plus leur appartement et que pour lui mettre la pression pour en changer, elle avait décidé de le suivre partout et de l'attendre dans la voiture. Dans un premier temps, il avait dit aussi qu'elle était d'une jalousie maladive et qu'elle voulait le surveiller. Tout cela est surréaliste pour les enquêteurs. Ils l'ont placé en garde à vue pour séquestration et tentative de meurtre. Leur appartement a été perquisitionné, la voiture est actuellement passée au peigne fin et les soupçons sont motivés aussi par le fait que la famille de la victime avait signalé qu'elle était en danger. Mercredi, elle est restée toute la journée en plein soleil. Elle n'a pas tenté d'ouvrir les portières ou les vitres. Peut-être n'a-t-elle pas pu. Pas d'appel au secours non plus. Les policiers espèrent pouvoir recueillir son témoignage, mais pour l'heure, elle est dans le coma. Pronostic vital engagé.
Récit signé Patrick Tégéro pour RTL. À Marseille, c'est un corps calciné que les pompiers ont trouvé la nuit dernière au parc Corot, théâtre de plusieurs règlements de compte par le passé. On ne connaît pour l'instant ni l'identité ni l'âge de la victime. L'hypothèse criminelle est toutefois privilégiée. Les mauvais chiffres de la sécurité routière et le nombre de tués, je vous le disais, a bondi au mois d'août, plus 10%. Bonjour Christophe Brou.
Bonjour.
Comment on explique une si forte augmentation ?
Mais en cause des déplacements plus nombreux. En effet, les Français sont majoritairement et massivement restés dans l'Hexagone. Ainsi, le trafic pendant les vacances a grimpé de 15% par rapport à il y a un an, en particulier les week-ends, puisque là, on enregistre carrément une hausse de 30% de la circulation. En revanche, si l'on compare à 2019, à août 2019, avant la pandémie, là, le nombre de tués baisse de 8%.
Et Christophe, vous nous révéliez ce matin le premier bilan des 30 km/h dans Paris. Après deux semaines de mise en place, on peut dire que ce n'est pas vraiment, vraiment concluant.
Oui, pour la vitesse, ce n'est pas concluant, puisque les relevés effectués par Coyote auprès des automobilistes montrent que la vitesse moyenne a certes baissé, mais de seulement un petit km/h, passant de 23,7 à 22,7 km/h, autant dire presque insignifiant. En revanche, le trafic auto est, lui, davantage touché, avec une diminution de l'ordre de 4% sur la première quinzaine de septembre. Première tendance conforme à ce que la mairie semble rechercher, c'est-à-dire limiter au maximum la présence de voitures dans la capitale. D'ailleurs, vous le savez, pas mal d'autres villes ont embrayé, comme Lyon, Bordeaux et Clermont-Ferrand. Au total, plus de 250 villes seront concernées bientôt. Bref, on se dirige tout droit vers un 30 km/h généralisé en ville, partout en France.
Merci beaucoup Christophe. Christophe Bourreau, spécialiste auto, ici à RTL.
Deux débats comme tous les jours dans un instant. Ces élèves de 6e harcelés à l'école d'abord et le hashtag 2010, qu'est-ce qu'on peut faire, que doivent faire les parents. On va en parler avec une maman dont la fille s'est suicidée, c'est un sujet dramatique. Et puis nous parlerons de la chasse ensuite à 12h50.
RTL Midi. Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr.
RTL Midi
avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Est-ce que tu sais pourquoi on se moque de vous, les 2010?
C'est un peu une date où on nous considère pour des petits.
Les 4 premières fois, je me suis laissée faire parce que, bah, un seul et moi, je savais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire et tout. Et donc ensuite, les autres fois, j'étais plutôt curieuse.
Ils ont 10 ou 11 ans et viennent tout juste d'entrer en 6e depuis la rentrée. Certains 2010, comme on les appelle, en lien avec leur date de naissance, sont harcelés par les plus grands dans la cour de récré, mais aussi sur les réseaux sociaux. Le hashtag anti-2010 prolifère et les menaces se multiplient. La preuve avec cette vidéo accessible à tous et repérée pour RTL par Julien Faudrat.
Un jeune est habillé en militaire, armé, frappant à une porte, est écrit en gros « Moi qui a trouvé l'adresse d'un 2010 ».
Menace prise au sérieux, hein. Jean-Michel Blanquer a réagi en postant dès hier soir une vidéo sur ces mêmes réseaux sociaux. Alors, que faire? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Nora, Tirane-Fraisse. Merci d'être en direct avec nous sur RTL. Vous êtes la maman de Marion qui s'est suicidée en 2013 après avoir été victime de harcèlement à l'école. Marion avait 13 ans. Cette histoire d'anti-2010, j'imagine, ça vous fait bondir?
Ben, ça me fait bondir et en même temps, ça m'inquiète beaucoup. Ça veut dire que chaque fois, j'ai l'impression qu'on franchit un cap supplémentaire. Et en même temps, ce sont toujours les mêmes ressorts du harcèlement et du cyberharcèlement, c'est-à-dire un bouc émissaire, une meute qui s'y attaque. Et forcément, on s'en prend à des plus vulnérables. Après, ce ne sont pas que des 2010, ce sont surtout des enfants qui rentrent en 6e. C'est-à-dire des enfants qui ont déjà peur de ce nouveau cap, qui n'utilisent pas forcément les réseaux sociaux, qui ont un usage méconnu de cela, qui n'ont pas de réseau, qui sont perdus et donc encore cette meute, cette lâcheté vis-à-vis d'un groupe. Et j'ai trouvé ça plutôt bien, votre petit reportage où l'enfant disait « Moi, au début, je n'ai pas compris c'est quoi le harcèlement. Mmh. Peut-être commençons par ça. » Et puis derrière, il a dit « J'ai été coriace. » Mais la vidéo dont vous parlez, elle me fait peur dans le sens où parfois on fait sauter certains préjugés et certains tabous. Ces mises en scène, ces mises en situation peuvent nous rappeler malheureusement des cas bien plus graves. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que peut-être au-delà de la viralité sur les réseaux sociaux, c'est que les parents soient très angoissés, que ça développe de la phobie scolaire. Et en effet, moi, je trouve très bien que le ministre ait réagi et ses équipes avec Bienvenue au 2010, mais d'une manière beaucoup plus globale. On a droit à une école sans harcèlement et on doit continuer à éduquer et à dire à nos enfants, ne soyez pas des suiveurs sur les réseaux sociaux ou encore plus dans nos écoles. Mais je comprends la peur.
C'est ce que j'allais vous dire, Madame Fraisse, c'est que la réaction du ministre de l'Éducation nationale, qui sera d'ailleurs ce soir chez Julien Cellier, est très intéressante. C'est-à-dire qu'il a réagi extrêmement vite, assez fort. Il a communiqué d'ailleurs via Twitter. Donc l'Éducation nationale, manifestement, prend ce dossier très au sérieux.
Alors, moi, je peux vous dire qu'à titre personnel, je suis membre permanent du comité d'experts auprès du ministère de l'Éducation nationale et j'ai travaillé pendant 2 ans sur l'expérimentation du programme phare, notamment auprès des familles allophones et de la mallette pédagogique. Donc, je peux vous assurer qu'il y a une vraie volonté, mais c'est plus qu'une volonté. Le programme phare est inédit. Il y a une volonté de mettre un terme au harcèlement, au cyberharcèlement. Mmh. Rappelez-vous, nous, on avait lancé la journée nationale. C'est devenu une journée internationale. Le 17 novembre, on prépare beaucoup de choses, on va mobiliser, mais c'est tout au long de l'année. Et maintenant, dès le CP, vous avez 10 heures d'enseignement sur ces sujets-là.
Donc moi, c'est ce que j'allais vous dire, c'est ça qui est important, c'est d'enseigner dans les classes. Mais alors, qui enseigne par exemple, en 6e? Quel est le professeur? C'est le professeur principal?
Non, aujourd'hui, on est sur des équipes pluridisciplinaires. Le programme phare, il promet beaucoup de choses. Il promet notamment des équipes ressources. Donc, ça veut dire des équipes dans les établissements qui vont être formées à ces sujets-là. Des parents ambassadeurs qui vont être formés. Vous allez également avoir, des pédagogies, des salles réservées aux parents, des cours. Et bon, à titre personnel, nous, à Marion la main tendue, on réalise pour la première fois, dès la rentrée, la formation initiale dans l'INSPE de Créteil et l'INSPE de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai proposé au ministre de former les futurs enseignants et CPE à la veille, à la détection des signaux faibles, à la prise en charge du harcèlement, parce que jusqu'à présent, c'était du disciplinaire, transmettre le savoir-faire, mais pas le savoir-être, les compétences psychosociales. Et tout le monde, chaque professeur peut s'intéresser à ce sujet, et puis le développement de méthodes. Mais vraiment, je peux vous dire, il y a un changement de paradigme, et je remercie le ministre, parce que je sais qu'il est très engagé, il l'a fait véritablement, et je peux vous dire que les équipes à la mission nationale sont sur le terrain. Il y a une expérimentation pendant 2 ans, mais surtout dire aux parents.
Alors justement, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a une mobilisation, oui, des pouvoirs publics sur cette question, mais depuis qu'on a découvert ce hashtag, je ne vais pas vous le cacher, à la rédaction, on a passé des coups de fil à ceux qui avaient des adolescents de cet âge-là, etc. Et en fait, tous les parents ont découvert le truc. Quand ils en ont parlé avec leurs enfants, les enfants ont dit « Ah ben oui, on a vu ». Et ils n'en avaient pas parlé à leurs parents. Alors, ils n'avaient pas forcément été victimes, mais ils n'en avaient pas parlé. Comment on peut parler de ça avec ses enfants et comment faire en sorte qu'au moindre souci, ils nous disent « Eh oh, là, il y a quelque chose qui ne va pas ».
Alors, on a fait un baromètre qui rappelle que 52% des Français indiquent que quand ça leur est arrivé, les 15 ans et plus, ils n'en ont pas parlé à leurs parents. D'abord parce qu'ils pensaient que ça allait augmenter les risques, peur des représailles, la honte et la culpabilité. Donc, il faut savoir que le parent n'est pas forcément l'interlocuteur privilégié. Donc, il faut déterminer avec ses enfants dès le plus jeune âge un adulte de confiance et de référence. Et il faut accepter que malheureusement, on ne sera pas forcément cette personne-là à ce moment-là, mais qu'il faut trouver d'autres personnes. Il faut dire aussi que 100% des élèves sont concernés par le phénomène de harcèlement et de cyberharcèlement et de plus en plus jeunes et confrontés à des cyberviolences. Il faut dire que de toute façon, on peut s'en sortir. Il faut lui dire « je te crois ». Et ça, il faut l'expliquer aux parents. C'est pour ça qu'on fait des formations auprès des parents. «
Je te crois », j'ai pas compris. Ça veut dire quoi « je te crois » ?
Je te crois quand tu me dis « cet enfant, il est tapé » ou « je subis des violences ». Parce que souvent, on lui dit « mais c'est des chamailleries, mais ça va passer ».
Ça, on entend souvent ça.
« Oui, mais toi, t'as un comportement ». Même des professeurs qui disent « oui, mais tu sais pas faire
des amis ». Donc quand un élève se plaint, il faut lui dire « je te crois ». C'est ça.
Toujours. D'accord. Je te crois. Je ne sais pas si c'est du harcèlement, mais je te crois. Je crois qu'il se passe quelque chose d'important dans ta vie et qui te fragilise. Donc c'est ça qu'il faut dire aux parents. Et surtout
donc
de
ça, c'est de la pédagogie où vous apprenez aux parents à entendre la parole des enfants.
Exactement, et on apprend aux enfants à développer ce qu'on appelle des compétences psychosociales. Comment entrer dans un groupe, comment gérer les émotions, comment comprendre que la colère n'est pas une violence, que c'est normal d'être un suiveur parce qu'on a peur, on a peur des représailles. Il faut dire qu'aussi, c'est une relation triangulaire. Les témoins, les agresseurs, et surtout les personnes cibles, et leur dire que ce ne sont pas des victimes à vie. Et là, c'est les 2010, mais ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, nos enfants sont victimes d'ostracisme, de harcèlement et de cyberharcèlement. On doit les accompagner. Et c'est pour ça que je vous dis que dès le CP cette année, vous avez 10 heures consacrées à ces compétences.
Jean-Michel Blanquer... Non, je vous en prie, c'est passionnant de vous entendre. Pardon. Jean-Michel Blanquer annonce, et c'est une info RTL, avoir écrit à tous les chefs d'établissement de collège pour les alerter. Et puis, il indique qu'il va recevoir les réseaux sociaux. On les pointe régulièrement du doigt, ces réseaux sociaux. Pas grand-chose ne change. Elle est aussi de leur côté, la responsabilité.
Mais alors, mais à 1000%.
Il faudrait faire quoi ?
Alors moi, je vais vous dire à titre personnel, je milite depuis des années. J'interpelle chaque année, j'en profite, Cédric O, en charge du numérique, de peut-être s'attaquer à ce sujet-là. De dire que quand on a fait le baromètre, qu'est-ce que disaient les gens ? Enfin, les Français, ils voulaient, et les enseignants également, un guichet unique. Et pardonnez-moi, Jean-Michel Blanquer le sait, et je lui ai annoncé, on a créé une assurance qui s'appelle Colibri pour prendre en charge ses enfants, parce qu'il y a un trou dans la raquette. Les GAFAM sont aussi fournisseurs. À partir du moment où ils laissent cette viralité, pour moi, ils sont aussi responsables que les agresseurs qui ont créé les hashtags. Et Jean-Michel Blanquer a bien raison. Mais pour ça, il faut que les GAFAM, il faut que notre gouvernement, je le dis à titre personnel, ait du courage. Parce que ce sont nos enfants, ce sont 12 millions d'élèves. Et c'est bien beau de se dire, il y a un hashtag, il y a un hashtag, il y a un hashtag. Mais j'invite Google, j'invite TikTok, j'invite tous ces gens. S'ils arrivent à faire de la viralité, eh ben, qu'ils fassent une viralité pour que ça s'arrête et qu'ils mettent des millions et qu'ils cessent de laisser cette haine déversée. Pour faire toutes les lois, la loi anti-haine, la numérique, ils sont responsables au même titre que les agresseurs.
Merci Madame Fraisse. Je rappelle que vous êtes fondatrice de l'association Marion Fraisse, la main tendue qui lutte contre le harcèlement scolaire. Vous êtes auteur également de Marion 13 ans pour toujours aux éditions Kalman Lévy et Stop au harcèlement. On va parler de la chasse et d'Emmanuel Macron dans une seconde. A tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Les ruraux, on les prend pour des ploucs ou pour des gens justement qui pratiquent des méthodes arriérées ou des méthodes dangereuses, si on parle des agriculteurs, etc. Ras-le-bol du chasse-bashing, de l'agri-bashing. Le président de la République, depuis le début, a compris que la chasse, c'était un mode de vie en milieu rural et que c'était respectable à partir du moment où il y avait un encadrement et que c'était contrôlé.
C'était ce matin sur RTL, Thierry Coste, le conseiller politique de la Fédération des chasseurs, qui saluait le choix d'Emmanuel Emmanuel Macron de réautoriser certaines chasses. Ce n'est pas la première fois que le président fait un geste en faveur des chasseurs. On se souvient du prix du permis divisé par deux. Ça, c'était il y a 3 ans. Alors, pourquoi Emmanuel Macron cajole-t-il les chasseurs? C'est le deuxième débat d'RTL Midi. Bonjour Marie-Bénédicte Teller.
Bonjour.
Vous êtes, je le rappelle, journaliste au service politique d'RTL. Alors, ce n'est pas le premier président, Emmanuel Macron, à prendre des mesures en faveur de la chasse.
Non, c'est vrai. Quasiment tous les présidents de la Ve République, qu'ils soient pratiquants comme Pompidou et Giscard d'Estaing ou pas, comme les autres, la plupart, ont à minima ménagé les chasseurs quand ils n'ont pas carrément pris des mesures en leur faveur, comme Nicolas Sarkozy qui, en septembre 2016, quelques mois avant la présidentielle, accorde une interview au mensuel No Chasse et promet un assouplissement des directives européennes, ces fameuses directives qui brident la chasse. Et il rappelle que le droit de chasser fait partie des acquis de la République. Il avait d'ailleurs nommé un de ses proches, le sénateur Pierre Charron, administrateur du domaine de Chambord. Alors, Nicolas Sarkozy est le président qui supprime officiellement l'institution des chasses présidentielles, héritée finalement de l'ancien régime, mais il maintient des battues de régulation. Et officieusement, la tradition se poursuit donc. Des politiques, des diplomates, des grands patrons sont flattés d'être conviés et peuvent faire avancer des dossiers dans ce cadre informel. Le Libyen Kadhafi lui-même a eu droit à une chasse à Rambouillet en 2007. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, dans les années récentes, est le président qui s'est le plus engagé dans la démonstration d'amour aux chasseurs. On ne l'a pas vu fusil à l'épaule, mais en décembre 2017, quelques mois après son élection, il fête son anniversaire dans un gîte du domaine de Chambord. Et des chasseurs de toute la France ont la surprise de le voir arriver pour rendre les honneurs au gros gibier. Écoutez l'un d'eux au micro RTL de Christian Panvert.
On est très flatté par cette visite-là. Il est important que le président fasse un signe aussi fort envers le monde de la chasse. Donc cette tradition française, ce savoir-faire, a été ce soir signé par le président de la République et c'est vraiment pour nous un grand honneur.
Touché, les chasseurs, Emmanuel Macron avait alors serré la main de tous les présents, rabatteurs et maîtres chiens compris.
Mais alors pourquoi on les choye comme ça, les chasseurs?
Ben les chasseurs, ils sont un peu plus d'un million actuellement à avoir un permis de chasse validé.
Vous avez tout dit. Voilà, c'est 1 million. C'est le chiffre magique, c'est 1 million d'électeurs.
Ils sont, alors, supposément plus proches de la droite, mais ils sont pas seulement chasseurs, ils s'érigent aussi en défenseurs du monde rural contre les écologistes, supposément plus urbains. Ils sont donc un très important groupe de pression qui s'est même érigé en mouvement politique à certaines époques, dans les années 90 avec la création du mouvement Chasse, Pêche, Nature et Tradition, qui avait présenté un candidat à la présidentielle de 2002, Jean Saint-Josse, ancien du RPR de Jacques Chirac, écoutez-le.
Je vais appeler les Françaises et les Français à voter pour moi pour faire passer un message qui est le message de la ruralité. Dans les campagnes, ça se vide, il faut rééquilibrer les choses, que les services publics soient accessibles partout, que le droit à la sécurité soit un droit pour tous. On ne pourra plus supprimer une salle de classe, empêcher de garder une poste, ne pas conserver une gare. C'est tout cela que l'on va dire.
Jean Saint-Josse, cette année-là, il obtient un peu plus de 4% des voix, mais avec des scores très supérieurs dans les départements où on chasse, dans le Sud-Ouest ou la Somme par exemple. Au second tour, il appelle à voter Jacques Chirac. Mais en réalité, si l'électorat chasseur est considéré comme plutôt de droite, c'est aussi une tradition ancrée dans toutes les classes populaires, y compris très, dans toutes les classes sociales, y compris très populaires. Et dans tous les départements où la chasse est bien ancrée, les politiques, même de gauche, ont toujours défendu les chasseurs. C'était le cas du socialiste Henri Emmanuelli en Gironde, du communiste Maxime Grémetz dans la Somme. Et aujourd'hui, François Ruffin, député de la Somme, n'a par exemple pas signé le référendum d'initiative populaire pour interdire la chasse à la glu. Dans ce département rural, d'ailleurs, le socialiste Vincent Payon avait eu maille à partir avec les chasseurs. Ruffin, lui, ne veut pas signer ce référendum. Pas question de réveiller une guerre des chasses, même si on est insoumis.
Vous allez pouvoir nous appeler, c'est généralement un sujet qui divise les auditeurs. C'est plutôt des hommes qui chassent, Marie-Bénédicte.
Je crois qu'il y a aussi des femmes. D'ailleurs, oui. J'ai retrouvé une vidéo où on voit le président Giscard d'Estaing revenir d'une chasse et il y a Madame Giscard d'Estaing qui suit avec son fusil sur l'épaule.
Alors, si vous êtes, je ne sais pas si on dit chasseuse, d'ailleurs, sans doute, telle Diane Sacheresse, c'était Sacheresse,
voilà. D'ailleurs. Chasseresse,
c'est difficile. Le chasseur sachant chasser, vous le dites ou pas?
Sachant chasser, c'est chasser sans son chien. Et un chasseur sachant chasser sans son chien, ça chasse aussi. Sachez-le.
Eh bien, bravo, parce que franchement,
effectivement, il y a plus d'hommes que de femmes.
Oui, c'est une bonne conclusion, effectivement. Il est 12h58. Appelez-nous, parce que c'est un bon sujet, je trouve. Merci, Amandine. Et on va parler du temps. Est-ce qu'on aura le droit de chasser ce week-end?
Là, ben, on va voir ça.
À tout de suite. Il est 13h01.
Les auditeurs.